Vous êtes sur RTL. Oui. Christophe Paco,
RTL Matin.
À 8h30, le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Et une 21e médaille assurée pour la France aux Jeux Olympiques de Tokyo.
En or ou en argent, les fleurettistes français sont qualifiés pour la finale. Cette nuit, Florent Manaudou a décroché l'argent sur le 50 mètres nage libre. Des opposants au pass sanitaire toujours plus nombreux, alors que le Conseil constitutionnel devra trancher jeudi prochain. Gare au risque d'incendie ce week-end, les calanques sont fermées à Marseille. Les paquebots, désormais persona non grata à Venise. Et puis, le premier choc de la saison en football, Lille-Paris Saint-Germain, c'est le trophée des champions ce soir.
RTL à Tokyo.
Au moins deux nouvelles médailles pour les Français ce dimanche.
Après les six d'hier, ça va être difficile de faire mieux, mais la matinée a très bien commencé avec Florent Manaudou qui a remporté l'argent sur 50 mètres nage libre derrière l'Américain Caleb Dressel. Seule et unique médaille olympique pour les nageurs tricolores cette année, Florent Manaudou sauve l'honneur. C'est la 20e médaille pour l'instant pour le clan français. Il y en aura forcément une de plus dans les prochaines heures puisque les fleurettistes sont en finale pour l'or ou pour l'argent, Quentin Vasselin.
Oui, rendez-vous à 12h50 contre la Russie. Ça a été très dur contre le Japon. Erwan Le Pechou a failli tout perdre dans la dernière manche de son assaut contre les Japonais, mais il a fini par s'en sortir. Victoire 45 touches à 42 pour les Français. Et donc il passe en finale de cette compétition par équipe de fleurets. En volée, les Bleus sont en quart de finale du tournoi olympique malgré la défaite 3-7-2 contre le Brésil, grand favori de la compétition. Prochain adversaire, la Pologne, champion du monde en titre. On connaît aussi l'adversaire en quart pour nos handballeurs, ça sera Bahreïn. En boxe, situation inédite, le Français Mourad Aïef éliminé en quart de finale, éliminé des poids lourds, pour avoir soi-disant donné des coups de tête à son adversaire anglais. Injuste, il est resté 45 minutes sur le ring pour protester en vain.
Ils reconnaissent qu'ils ont fait une erreur, mais comme ils ont écrit sur le papier, c'est trop tard, ils ne peuvent pas revenir sur la décision.
C'est un scandale ça.
C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est innocent, il le condamne. J'ai pas les mots franchement, c'est pour ça que j'essaie de rester. Je me suis toujours battu contre les injustices, et là aujourd'hui je subis une injustice. Toujours on parle de boxe, c'est le vol. Mais là, c'est vraiment un vol ouvertement. Il m'arrête pour dire que, en fait, c'est pas possible. Tiens, l'autre, il gagne. Il parle de valeurs d'olympisme. Elles sont même pas respectées. Il me dégage du ring. Il me dit, tu perds. Allez, tiens, rentre dans ta chambre. Va te laver. Fais tes affaires. Rentre chez toi. J'aurais pu faire au moins ramener une médaille de bronze. Et comme ça, devant tout le monde.
Le monde entier.
Le monde entier me vole.
Pas de médaille donc pour Mourad Aliyev au micro de nos confrères de France Télévisions. C'est un zéro pointé pour la boxe qui avait été un bon pourvoyeur de médailles il y a 5 ans. Mais là, c'est un fiasco.
Merci Quentin Vasselin pour RTL. L'ensemble des résultats à retrouver ce soir dans On refait les Jeux entre 18h30 et 19h sur RTL.
Dans le reste de l'actualité ce matin, la mobilisation des antipasses sanitaires qui prend encore de l'ampleur.
110 000 il y a deux semaines, 160 000 le week-end dernier. Désormais plus de 200 000 hier à travers toute la France. Dans les cortèges, une forme de convergence des luttes. Gilets jaune, anti-vaccin. Farida est infirmière à domicile. Elle refuse de se faire vacciner, même si ça doit l'empêcher de travailler.
Je suis contre le pass sanitaire, je suis contre le vaccin. D'accord, on n'a pas suffisamment de recul et je ne veux pas. Je ne veux pas, et en plus de ça, ils vont imposer ça à nos enfants. Je ne veux pas. Donc du coup, une infirmière en moins, plus des médecins en moins, c'est pas possible. Je n'ai pas fait ce métier-là pour qu'on laisse des gens sans soins. Je suis révoltée, je ne comprends pas. Pourquoi il fait ça? Il voit très bien que les gens ne veulent pas ça. Là, en fin de compte, je dis avant, on faisait des distinctions par rapport à notre couleur, par rapport à nos origines, par rapport à tout ça. Maintenant, c'est la première question qu'on pose, c'est est-ce que je suis vaccinée? Non, je ne suis pas vaccinée, je ne vais pas l'être. À part si on met le couteau sous la gorge, mais là, c'est ce qu'il est en train de faire. Non, ça va aller en crescendo, on ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Tant qu'il ne retirera pas son pass et sa vaccination, on n'en lâchera rien.
Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Si le texte est validé par le Conseil constitutionnel jeudi prochain, la vaccination deviendra en effet obligatoire pour les soignants. Ce matin, dans le journal du dimanche, le président de la Fédération hospitalière de France appelle l'exécutif à décréter la vaccination obligatoire pour tous et donc pas seulement pour les personnels des établissements de soins.
Le début des vacances pour de nombreux Français ce week-end.
On a compté plus d'un millier de kilomètres de bouchons hier, c'est un peu mieux aujourd'hui. Ça a pris souvent un peu plus de temps que prévu. Mais les touristes ont pu s'installer dans ce camping près de la dune du Pilat. Gauthier et Marine, la vingtaine, sont venus de Normandie pour passer la semaine avec leurs amis.
Entre amis, on a loué un mobil-home et une tente. Puis on va essayer de passer du beau temps malgré la température et le manque de soleil, quoi.
C'est toujours mieux que chez nous. Donc on relativise. Là, on fait un molki en attendant les clés. Et après, on va aller ce soir sur la dune, je pense, pour profiter de la plage et puis boire un peu, s'amuser et profiter.
Ouais, ça fait beaucoup de bien de pouvoir prendre du temps pour soi et se reposer, surtout avec le Covid, du coup, ça fait du bien. Puis avant la reprise, du coup, de se retrouver tous ensemble, c'est cool.
Des propos recueillis par Juliette Chaignon pour RTL.
Le molki, vous savez ce que c'est que le molki?
Oui, bien sûr. Ouais.
Vous avez déjà joué au molki?
J'ai déjà joué au molki, effectivement.
D'accord, on descend
les petites bûchettes en bois.
Les petites bûchettes en bois dans le jardin. Allez, après la Gironde, direction cette fois le sud-est, le parc des Calanques est fermé ce week-end.
Tant pis pour les vacanciers, le risque d'incendie est trop élevé à cause du Mistral. Les visiteurs sont obligés de rebrousser chemin à l'entrée de la Calanque des Goudes, Samia Belbachir.
Petite déception pour Marc, venu pique-niquer au Goud. Le parc national des Calanques est fermé, il va devoir faire demi-tour.
Avec la sécheresse qui sévit et ce vent incontrôlable également, le risque était très important. On va se rendre à l'évidence et renoncer sans regret à notre petit projet.
Le Mistral va souffler au moins jusqu'à demain avec des pointes à 70 km/h, ce qui entraîne la fermeture automatique des massifs de la région. Juliette est garde forestière.
La végétation est très très sèche en ce moment et du coup là, la moindre étincelle peut faire partir un feu qui prendra des grosses proportions par la suite.
Tous les jours, les conditions d'accès au parc national des Calanques sont mises à jour sur l'application My Calanques et sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Samia Belbachir pour RTL. Des risques d'incendie dans le sud-est et un incendie déjà en cours dans les Pyrénées-Orientales à la frontière espagnole sur la commune de Cerbère. Hier soir, une quinzaine d'hectares étaient partis en fumée. Et puis de l'autre côté de la frontière, côté espagnol, 25 hectares de végétation là ont été détruits. Les flammes ont été maîtrisées.
Dans un instant, direction Venise. Les gros paquebots de touristes sont désormais interdits.
RTL Matin. Christophe Paco. Christophe Paco. RTL Matin.
À 8h38, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Et avant de partir à Venise, direction cette fois les Alpes. Et si vous avez prévu de faire appel à un guide de montagne, de haute montagne même, attention aux arnaques.
L'habit ne fait pas le moine, ça vaut aussi pour les chaussures de rando. Une femme a été arrêtée par les gendarmes à Chamonix. Elle venait de faire le tour du Mont Blanc avec un groupe de vacanciers alors qu'elle n'avait passé aucun diplôme d'État. Éric Charamel, président de la compagnie des guides de la Vanoise.
Un béotien qui veut faire un tour du Mont Blanc, par exemple, et qui voit un prix très attractif, on peut quand même se poser la question sur la qualité de l'encadrement. Si sur un circuit normal, vous avez une différence de prix de 30%, il faut quand même vraiment bien se méfier et vraiment bien se renseigner sur qui accompagne, qu'est-ce qu'il en est. Il y a un outil qui a été mis en place par l'État qui s'appelle EAPS pour éducateur activité sportive.fr. Vous recherchez un guide, vous tapez le nom et vous voyez si cette personne a la capacité de pouvoir enseigner et encadrer.
Des propos recueillis par Zoé Pallier pour RTL. 50 millions de touristes étrangers cet été en France. Alors, c'est pas le premier bilan, mais l'objectif fixé par le secrétaire d'État au tourisme dans une interview au Journal du Dimanche, 50 millions contre 90 millions en 2019, seulement 35 millions l'an dernier. Jean-Baptiste Lemoine estime que les visiteurs étrangers seront surtout des Européens. La clientèle plus lointaine devrait rester encore largement absente.
Et à Venise, il y aura toujours des gondoles. Mais les grands navires de croisière, eux, sont désormais interdits.
Oui, vous ne verrez plus ces images de géants des mers stationnés tout près de la place Saint-Marc et du palais des Doges. Un nouveau décret entre en vigueur dès aujourd'hui, Olivier Bonnel.
Désormais, les navires au-dessus de 35 000 tonnes, de plus de 180 mètres de long ou de 35 mètres de tirant d'air, ne seront plus autorisés à se rapprocher du cœur de la Sérénissime. Un soulagement pour Sebastiano Veneri de l'association écologiste Les Gambiantes.
Enfin, il était temps. Nous saluons cette décision en espérant que cela mette un terme au scandale des grands paquebots à Venise.
L'enthousiasme des Vénitiens est pourtant loin d'être général. Les navires géants doivent désormais jeter l'ancre dans le port voisin de Marghera, sur la terre ferme. Mais problème, l'impact sera toujours fort sur la lagune. Ilona Go est une Française installée à Venise.
Le décret-loi ne résoudra pas le problème parce que Marghera, il faut le rappeler, ça reste dans la lagune de Venise. Un port capable d'accueillir des croisiéristes à Marghera nécessitera aussi des travaux importants dans un site classé Seveso.
Le secteur touristique vénitien est lui vent debout contre cette interdiction. Dans une ville déjà frappée par le Covid, les croisières, c'était 400 millions d'euros de recettes par an pour Venise avant l'épidémie, quand les navires géants pouvaient encore faire débarquer leurs touristes dans le centre.
Les explications d'Olivier Bonnel, le correspondant de RTL en Italie. Au zoo de Beauval, les soignants n'ont pas dû fermer l'œil de la nuit. La naissance de deux bébés pandas est imminente. La mise bas de la femelle Juan Juan était prévue la nuit dernière. Ça pourrait aller jusqu'à lundi. Chaque naissance est un événement chez les pandas car la femelle n'est féconde que pendant 24 à 48 heures par an. Juan Juan avait déjà donné un premier bébé panda né en France. C'était lors de l'été 2017.
Quelle belle histoire. On termine avec le football. C'est le trophée des champions ce soir.
Le LOSC qui affronte le PSG à Tel Aviv en Israël. Sergio Ramos sera absent, tout comme Kylian Mbappé. La saison dernière, c'est Lille qui avait volé la vedette aux Parisiens dans le championnat de France. Mais l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino assure que ce ne sera pas une revanche.
Lille mérite et tout le crédit leur revient. On est surtout déçus de nous-mêmes car on n'a pas gagné ce championnat et pourtant on avait notre destin entre les mains. C'est pour ça que nous sommes très tristes. Donc c'est une revanche, mais contre nous-mêmes. Il faut montrer que nous sommes meilleurs et qu'on mérite de gagner. Et ça n'a rien à voir avec Lille, une très belle équipe qui a mérité, je le répète, de gagner ce championnat.
Voilà, Lille-Paris Saint-Germain, ce soir à 20h à Tel Aviv. C'était l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino avec Baptiste Durieux. Pour
alors Lille, Paris Saint-Germain, vous pourrez le voir ce soir à la télévision sur Amazon Prime. C'est la première fois que Amazon Prime diffuse du football en France. Mais en revanche, pour Lille et Paris, les adversaires du soir, la semaine prochaine, c'est la reprise de la Ligue 1. Pas sûr qu'on voit les matchs. On explique tout ça dans un instant et on décortique tout ce temps. On décrypte évidemment ce grand dossier foot avec Pierre Rondeau qui sera avec nous. Il est professeur d'économie, spécialiste bien sûr de ce sport qu'est le football, bien compliqué aujourd'hui à gérer. Merci à vous, Alexandre de Saint-Aignan. À tout à l'heure pour les prochaines informations. Il est 8h42.